Je me trouvais un jour sur le quai de la gare et j'attendais mon train qui devait m'emmener dans la ville voisine. Comme les autres gens, j'attendais que le train arrive en gare. Et tout d'un coup, on a vu arriver sur le quai de la gare deux policiers avec une personne entre eux deux. L'un des policiers était attaché par des menottes au personnage qui l'emmenait et l'autre était derrière avec une mitraillette. Tous les gens sur le quai de la gare ont regardé ce trio qui est arrivé. J'ai fait comme tout le monde et je pense que j'ai pensé la même chose que tout le monde. J'ai pensé, mais qu'est-ce que ce gars a bien pu faire pour en arriver là? Et deuxième pensée, j'espère qu'ils ne vont pas monter dans le même wagon que moi. Mais en voyant cet événement, j'ai pensé que cette situation a dû être très semblable à ce qui est arrivé sur le quai du bateau lorsque l'apôtre Paul est arrivé avec Julius le centurion, les soldats et d'autres prisonniers pour prendre le bateau pour aller vers Rome. Les gens qui étaient là, les autres passagers, ont dû se dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens pour en arriver à ce point-là » Et ils ont dû se dire « J'espère que cette compagnie ne va pas prendre le même bateau que moi. » Dans le livre des Actes, au chapitre 27, il nous est raconté l'histoire de ce voyage de l'apôtre Paul vers Rome. Il nous a raconté dans ce chapitre comment l'apôtre Paul s'embarque prisonnier en réalité pour aller vers Rome. L'apôtre Paul va prendre le bateau à Césarée et il va se rendre jusqu'à Sidon. Et puis de Sidon, il va monter jusqu'à Myra, il va contourner l'île de Chypre. Et puis il va prendre un autre bateau qui va aller vers l'île de Crète en contournant l'île de Rhodes. Le voyage se passe sans grande difficulté, bien que le vent soit un peu contraire. Il faut plus de temps que prévu pour atteindre la destination. Et ils arrivent finalement dans l'île de Crète, où ils vont arriver dans le port appelé Beauport. En fait, ce n'est pas exactement là qu'ils veulent rester. Mais l'apôtre Paul va leur dire, au capitaine et au responsable du bateau, « Je vous conseille de rester ici pour passer l'hiver. La saison est déjà trop avancée. » Et le texte nous dit que cet événement s'est passé après la fête des expiations qui a lieu à la fin du mois de septembre environ. Évidemment, à cette époque, naviguer était dangereux, périlleux pendant la mauvaise saison. Et l'apôtre Paul leur donne ce conseil. Mais dans cette ville de Beauport, il n'y a pas suffisamment de quoi s'amuser pendant l'hiver. Donc les marins, le capitaine du bateau, les passagers souhaitent aller plus loin dans un endroit plus agréable où on va pouvoir s'amuser pendant le reste de l'hiver en attendant pouvoir continuer le voyage. Et contre l'avis de l'apôtre Paul, ils vont reprendre leur voyage pour aller dans un autre port de l'île plus intéressant, le port de Phénix. Il fait beau, il n'y a pas de raison de douter que le voyage ne se passera pas bien. Et le texte nous dit qu'ils vont naviguer en longeant la côte le plus près possible. Ils pensent que tout est en ordre. Et puis tout d'un coup, un vent violent se lève, une tempête extraordinaire secoue le bateau, et la situation est hors de contrôle. Et ils vont ainsi naviguer pendant 14 jours, dériver sans savoir exactement où ils vont. 14 jours dans la tempête. Une tempête violente, nous dit le texte, au point que sur le navire, il n'y a pas grand monde qui a envie de manger. Et je peux comprendre. 14 jours pour les 276 passagers du navire. Il y a l'équipage, il y a des passagers, il y a les soldats qui gardent les prisonniers et une cargaison de différentes choses destiné à être transporté, revendu ailleurs. 276 passagers. Après 14 jours, ils ne savent pas exactement où ils sont. Le ciel, la mer, tout se confond de la même couleur. Ils ont replié les voiles, attaché le gouvernail et ils dérivent. Ils espèrent ne pas rencontrer de bandes de terre sur lesquelles ils s'échoueraient, mais ils découvrent que ils approchent d'une terre, ils jettent la sonde et se rendent compte que la profondeur diminue. Il fait nuit, ils jettent les ancres du bateau Et l'apôtre Paul, qui est avec eux, va leur donner courage. Il a eu pendant le voyage une vision. Et il va leur dire, vous auriez peut-être dû suivre le conseil que je vous ai donné. Mais maintenant, le Seigneur m'a parlé. N'ayez crainte. Le Seigneur m'a dit que nous ne perdrions pas la vie, nous perdrons seulement le bateau. Et l'apôtre Paul va leur dire, vous avez jeûné assez longtemps, mangez maintenant, vous avez besoin de force. Et l'apôtre Paul va donner l'exemple. Il va prendre du pain, il va rendre grâce et il va lui-même manger. Devant cette initiative, ce courage, les autres font de même et tout le monde va se mettre à manger. Ils vont arriver en fait au bord de l'île de Malte. Certains se rendant compte le matin que la côte est proche, veulent s'enfuir. On va même proposer de tuer les prisonniers pour être sûr qu'ils ne s'évadent pas. Mais le centenier qui sait, parmi ces prisonniers se trouve l'apôtre Paul, un homme tout à fait particulier, empêche les soldats d'accomplir leur dessein. Et l'apôtre Paul précise d'ailleurs que si quelqu'un s'enfuit, ce sera difficile qu'il préserve sa vie. Ils vont essayer le matin d'approcher, malgré la tempête. Leur bateau va se prendre dans une bande de terre et le bateau va se démanteler. Ils vont prendre des bouts de bois du bateau et ils vont tous se retrouver sur l'île de Malte. L'événement qui nous est raconté dans le livre des Actes est une des pages de la vie mouvementée de l'apôtre Paul. Une page réelle, une histoire réelle. Mais j'aimerais ce matin, si vous me permettez, prendre ces événements un peu comme une parabole. Il y a dans cette histoire plusieurs éléments qui m'inspirent pour le prendre comme une parabole. Bien que l'apôtre Paul ait réellement vécu ces événements-là, il est vrai que notre société aujourd'hui est dans une tempête effroyable, dans tous les domaines d'ailleurs. Et il suffit de demander à nos contemporains ce qu'ils en pensent, tout le monde se rend compte que rien ne va plus comme ça devrait aller. Le monde aujourd'hui est secoué par une tempête, qu'elle soit politique, économique, morale. Et dans ce sens-là, on pourrait se poser la question, que va être l'avenir? Comment donc ces choses vont-elles finir? Le chrétien ne se pose pas la question, en tout cas de cette manière-là, parce que nous aussi, par révélation, nous savons ce que sera l'avenir. Nous savons par la parole de Dieu, par les prophéties. Nous savons aussi par l'esprit de prophétie ce que sera l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Nous savons que la situation ne va pas aller en s'améliorant, nous savons qu'elle ira en s'aggravant jusqu'à ce que Jésus revienne. Et la carte, même si elle ne contient pas tous les détails que nous souhaiterions voir, est claire cependant dans les prophéties pour que nous sachions exactement au devant de quoi nous allons. Comme l'apôtre Paul, par révélation, nous savons quel sera l'avenir. Et dans ce sens-là, nous nous trouvons dans une situation extrêmement privilégiée de savoir ce que le Seigneur va faire, de savoir comment le Seigneur va protéger, conduire, diriger ses enfants au travers de la tempête finale du monde. Mais l'apôtre Paul va donner aussi un conseil de la part de Dieu à ses collègues de voyage. Dans le livre des Actes, au chapitre 27 et au verset 34, il est dit ceci. « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » Et il est vrai que nous sommes appelés, nous aussi, à prendre de la nourriture spirituelle, à nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Nous savons d'ailleurs que cette parole de Dieu sera à la fin des temps notre seule sauvegarde. Nous l'avons appris. Et il est nécessaire, dans la tempête où nous sommes, que nous nous nourrissions spirituellement de cette parole de Dieu. C'est la seule chose solide et stable à laquelle nous pouvons nous fier. Et alors, bien entendu, je me pose la question, combien d'entre nous ont ce moment chaque jour consacré à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, à la dévotion personnelle? Combien d'entre nous ont ce moment de nourriture quotidienne? Et puis, il y a autre chose que je ne comprends pas bien. Nous avons besoin de nous nourrir aussi en tant qu'Église. Mais lorsque l'Église met la table pour que nous puissions nous nourrir ensemble, comment se fait-il qu'il manque tant d'entre nous Pour être plus clair, lorsque la table est mise pour qu'ensemble nous étudions l'école du sabbat, le sabbat matin, comment se fait-il qu'il y a deux fois moins de personnes pour l'école du sabbat que pour le culte? Pourquoi? La table est mise pour que nous nourrissions ensemble. Comment se fait-il qu'à l'école du sabbat, tant d'entre nous manquent? Alors vous allez me dire, peut-être que c'est parce que je n'ai pas étudié ma leçon et j'ai peur de venir dans la classe et d'être interrogé. C'est simple de résoudre ce problème, étudiez votre leçon. Vous allez me dire, oh, j'ai tellement travaillé cette semaine, je suis fatigué pour venir à l'école du sabbat, c'est un peu tôt. Mais si j'ai tellement travaillé pendant la semaine que je ne peux pas venir au repas spirituel auquel le Seigneur m'invite, c'est dans la semaine qu'il y a un problème. D'autres vont dire, oh mais vous savez, c'est trop long, 2 heures. Mais quand vous allez au travail, vous y passez toute la journée, vous n'y passez pas 2 heures. Vous ne dites pas à votre patron, c'est trop long. Ou bien peut-être, certains ont pris simplement la mauvaise habitude de ne pas venir à l'école du sabbat. Et c'est difficile de déraciner une vieille habitude. On a peut-être peur que quelqu'un nous dise « Ah tiens, t'es là aujourd'hui ? Je suis trop fatigué, c'est trop tôt, c'est trop tard, il fait trop chaud, il fait trop froid. Je préfère rester chez moi. Je n'ai pas besoin des autres pour étudier la parole de Dieu. » Est-ce que vous réalisez à quel point toutes ces excuses sont ridicules à côté de l'importance de ce que nous avons à faire ensemble à l'étude de la parole de Dieu? Dans le livre « Conquérant pacifique », j'ai trouvé cette phrase que j'aimerais partager avec vous. « Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, l'Église est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un regard suprême. Elle est le théâtre de sa grâce. » L'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Avez-vous remarqué la puissance de Dieu? Où se manifeste-t-elle? Dans la transformation des cœurs. Pas d'abord dans des choses surnaturelles et extraordinaires, mais dans ce miracle de la transformation des cœurs. L'Église est cet endroit où le Seigneur veut agir avec puissance de cette manière. Ce conseil que l'apôtre Paul donnait à ses compagnons de voyage, permettez que je le prenne aujourd'hui sous l'angle spirituel, et pas seulement de nourrir personnellement chaque jour ce qui est nécessaire, mais prendre aussi notre repas en commun, parce que l'Église est le lieu où Dieu veut manifester sa grâce et veut manifester sa puissance par la transformation des cœurs. Si c'est ce que nous cherchons, c'est là que nous devons être. Jésus, d'ailleurs, nous a dit ce que nous devions faire pour être sauvés. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, au verset 51, Jésus dit ceci. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Il y a bien entendu dans ce passage une invitation à se mettre au bénéfice des symboles que le Christ a donnés lui-même pour obtenir le pardon des péchés. Mais si nous voulons nous nourrir du Christ aujourd'hui, comment pouvons-nous le faire sans aller dans sa parole ensemble à la recherche de la vérité présente pour aujourd'hui? L'apôtre Paul a donné aussi un autre exemple dans le texte que nous lisions tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Il nous est dit ce que l'apôtre Paul fait au verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 35. Il vient de proposer à ses coéquipiers de prendre un repas et il est dit au verset 35, « Ayant ainsi parlé, il prit du pain. » Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. C'est ici la prière. Paul prie. Il prie avec les autres. Il prie devant tous, nous dit le texte. J'aimerais simplement ce matin vous poser cette question. Où êtes-vous quand l'Église prie? L'Église, c'est chacun d'entre nous lorsque, ensemble, nous nous rassemblons pour réclamer cette promesse que là où quelques-uns sont rassemblés, le Seigneur est au milieu d'eux. Mais où êtes-vous quand l'Église prie? Y a-t-il quelque chose qui a préséance sur cette priorité-là? Et finalement, dans l'histoire de l'apôtre Paul, il y a un dernier élément que j'aimerais prendre encore une fois sous l'angle spirituel. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 27, ce qui nous est dit au verset 38. « Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. » Et je prendrai symboliquement ce qui nous est dit ici. Le blé, c'est sans aucun doute cette semence de l'Évangile. La parabole du semeur reprend la même image de cet homme qui jette la semence dans la terre. Le blé, la semence de l'Évangile. Et il nous est dit qu'ils ont ici jeté le blé à la mer. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, au verset 15, il nous est dit que la mer, l'eau, c'est une image des peuples, des foules, des nations et des langues. Si nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 14, au verset 6, nous apprenons que cet ange qui vole par le milieu du ciel proclame l'Évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue. J'aime cette image, ils vont jeter le blé à la mer. Et c'est effectivement ce que nous sommes invités à faire, à répandre pour toutes les nations la semence de l'Évangile. Que cette parole de Dieu qui a servi à notre nourriture soit elle aussi répandue auprès de tous ceux qui nous entourent. Jeter le blé à la mer, répandre la parole de Dieu dans le monde. Autrement dit, ce que l'apôtre Paul explique ici, c'est que finalement, ceux qui veulent être sauvés ont deux choses à faire. Manger et donner à manger aux autres. En parlant de tempête, je pense à un autre serviteur de Dieu qui a été pris dans la tempête. Je pense à Jonas, lui aussi serviteur de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison entre l'attitude de l'un et l'attitude de l'autre dans la tempête. Dans la tempête, Paul est présent. Paul reçoit lui aussi une révélation, quelque chose à transmettre. Il est présent, il va transmettre son message, donner son témoignage, encourager, diriger, aider, soutenir autant qu'il le peut. Il est là présent. Disons, Paul est sur le pont avec les autres. Je lis l'histoire de Jonas, et je trouve aussi un serviteur de Dieu dans la tempête. Lui aussi, il a reçu une révélation, et lui aussi a un message à transmettre. Mais Jonas va au fond du bateau, et il y dort en attendant que ça se passe. Et ce seront les autres, ce seront les non-croyants qui vont aller le chercher pour lui dire « Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je me pose la question, y a-t-il dans notre Église des gens qui sont au fond du bateau, qui dorment et qui attendent que ça se passe? Y en a-t-il dans notre Église qui sont descendus à la cale et qui dorment en attendant que les autres fassent le travail? Dans quelles sandales vous sentez-vous le mieux? Dans les sandales de Paul qui est sur le pont avec les autres? Dans les sandales de Jonas qui sont à côté de lui parce qu'il dort au fond du bateau en attendant que ça se passe? Dans le livre « Service chrétien », je trouve ce paragraphe. Je l'ai trouvé terriblement interpellant pour moi. J'aimerais le partager avec vous. « Ceux qui se disent les disciples du Christ sont à l'épreuve devant l'univers céleste. Mais la tiédeur de leurs ailes et la faiblesse de leurs efforts au service de Dieu les accusent d'infidélité. Ils sont nombreux, écoutez ceci, ils sont nombreux, ceux dont les noms dans les livres du ciel sont accompagnés de ces mots, consomment, mais ne produisent rien. Je me demande ce qui est écrit à côté de mon nom dans les registres célestes. Alors, comment faire? Comment faire? Parce que, je l'admets, autrefois, on faisait de la publicité, on annonçait des conférences pour annoncer l'Évangile, et les salles se remplissaient de gens qui voulaient savoir quelle est la vérité. Tant de gens avaient entendu de l'erreur. En regardant les Écritures, ils se rendaient compte qu'il y a là une vérité et ils voulaient connaître ce qui est vrai. Faire la différence entre le vrai et le faux. Et les salles se remplissaient de gens qui voulaient connaître la vérité. Mais aujourd'hui, Nos contemporains ne sont pas tellement intéressés de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne, quelque chose dont on peut voir les avantages et les bénéfices maintenant. Que ce soit vrai, que ce soit faux, peu importe, pourvu que ça marche. Ainsi, les salles sont vides et on se demande, on se pose la question ensemble, comment partager alors? Comment répondre à ce besoin qui est le besoin de toujours? Mais la situation a rendu nos contemporains terriblement inaccessibles à cette parole de vérité dont ils ont besoin. Je trouve dans la situation un défi extraordinaire, un défi que le Seigneur met devant nous et pour nous aussi. Regardez avec moi ce passage qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, nous lirons le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et là se trouve la clé. Nos contemporains ne veulent pas simplement des paroles aujourd'hui. Ils veulent voir la puissance de cet évangile dans notre vie. Et nous voilà devant un défi supplémentaire. Prêcher la parole aujourd'hui ne consiste pas simplement à dire ce que nous savons être vrai ou faux. Mais nos contemporains veulent voir les effets de cette parole en nous. Et là, le défi est pour nous. Et je me pose encore la question, dans ce cas-là, est-ce que nos contemporains voient suffisamment de Christ en nous pour être attirés par ce qu'il a fait en nous et comprendre la nécessité de saisir ensuite la vérité de sa parole? Jacques, d'ailleurs, dans son épître, voulait interpeller aussi ses contemporains. Dans le premier chapitre de son épître, au verset 22, Jacques dit ceci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Une interpellation pour que la parole ne reste pas parole, mais qu'elle devienne intégrée, qu'elle devienne partie de nous-mêmes, qu'elle nous transforme. Ainsi, le défi du partage de notre foi aujourd'hui est un défi qui se situe à un niveau peut-être surprenant pour nous, dans la mesure où il ne suffit pas, comme dit la parole de Dieu, de parler. Le royaume n'est pas simplement parole. Il est aussi puissance, et je me demande si cette puissance est visible en moi. Est-elle suffisamment visible en nous? Avons-nous quelque chose à dire de ce que le Seigneur a fait pour nous? Ou est-ce simplement quelque chose que nous avons reçu et que nous transmettons sans qu'il ait produit chez nous les effets souhaités? Ainsi, l'évangélisation d'aujourd'hui, le partage de notre foi, passe non seulement par la communication verbale de ce que nous croyons être vrai, mais par le témoignage d'une vie où le Christ a fait des miracles par sa puissance. Écoutez cette phrase. La gloire de l'Église du Christ se manifeste dans la piété de ses membres. C'est là que réside la puissance du Christ. Nous souhaiterions voir peut-être la puissance du Christ dans des miracles surnaturels, dans des guérisons extraordinaires, dans des choses spectaculaires. J'apprends que la puissance du Christ se manifeste dans la piété de ses membres. Et la piété pratique à laquelle il est fait allusion, c'est une piété de tous les jours. C'est la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. Ainsi, je me rends compte que ce témoignage, il n'est pas réservé aux spécialistes de la parole. Il est réservé à tous ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur. Le Seigneur demande à tous ceux qui participent à sa grâce de se mettre à l'œuvre pour sauver leurs semblables. Notre vie tout entière doit être consacrée à ce travail. Alors voilà quelque chose de rassurant pour ceux qui savent ne pas être des spécialistes de la parole. Dans ce sens, nous n'avons d'abord plus d'excuses, qui que nous soyons, et si nous voulons recevoir la grâce, si nous sommes suffisamment convaincus de nos besoins pour réclamer cette grâce, elle s'accompagne d'une mission. Que nous sachions parler ou que nous ne sachions pas parler, nous sommes invités à la même mission finalement. Par des moyens différents, j'en conviens, mais appelés à la même mission. Tous ceux qui ont accepté la grâce du Christ ont accepté la mission du Christ. Notre vie tout entière doit être consacrée à ce travail. Ceci veut dire finalement que nos activités de la semaine, nos études, notre travail, notre métier ne sont jamais que des prétextes pour pouvoir accomplir l'objectif numéro un de notre existence, travailler à sauver nos semblables. Avant d'être mécanicien, avant d'être électricien, avant d'être employé de bureau, avant d'être aux études, nous sommes employés par le Christ pour sauver nos semblables. Le reste, c'est ce qui va mettre du pain sur notre table et c'est ce qui va nous donner le moyen de contacter ces gens pour lesquels nous voulons travailler. Lorsque nous y pensons, il est vrai que nous nous sentons bien faibles devant cette tâche, mais il est un objectif que nous risquons de perdre de vue. Écoutez ce passage tiré du livre « Service chrétien ». Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. C'est qu'en réalité, Dieu dans sa sagesse ne nous emploie pas simplement parce qu'il a besoin de nous pour travailler au salut de ceux qui nous entourent. C'est vrai que quand j'y pense, ses anges et lui-même feraient le travail beaucoup mieux que nous. Mais en nous envoyant, il a comme objectif de transformer notre caractère pour que nous soyons prêts à son retour. Et dans ce sens-là, effectivement, cette tâche de jeter le blé à la mer, pour reprendre l'expression du texte que nous regardons aujourd'hui, est une responsabilité de chacun. Parce que chacun d'entre nous se trouve invité à laisser le Christ transformer son caractère et le reproduire à son image. Et nous avons tous demandé au Seigneur de changer notre caractère pour que notre caractère ressemble au sien. Aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer que nous devrions accompagner nos prières de l'application de cette mission, parce que c'est en participant à la mission qui consiste à sauver nos semblables que le Seigneur va continuer cette œuvre de transformer notre caractère pour son retour. D'ailleurs, la situation du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tout à fait propice à présenter la parole de Dieu pour se préparer au retour de Jésus. Permettez que je vous lise deux paragraphes tirés aussi du livre « Service chrétien » écrit par Ellen White. Il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui. Mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir. Il faut se mettre au travail et demander à Dieu avec instance de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se déroulent devant nous sont assez impressionnantes pour nous inciter à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. La moisson du monde est sur le point de mûrir. Et je suis impressionné quand je lis ce paragraphe qui a été écrit il y a plus d'un siècle. Que dirait l'auteur aujourd'hui si elle voyait les scènes se dérouler devant nous? Et s'il y a un siècle, la moisson du monde était sur le point de mûrir, où en est-elle aujourd'hui? Dans le même livre, le paragraphe suivant m'interpelle aussi énormément. La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement de tout notre cœur au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres de l'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Dans la tempête du monde d'aujourd'hui, je reconnais finalement que le Seigneur nous propose deux choses, fort simples, à la portée de tous. Il nous propose de nous nourrir, il nous propose de nourrir les autres, de jeter le blé à la mer, pour reprendre l'expression du texte. Et je crois que de cette manière-là, nous pouvons tous, chacun en particulier, puisque nous sommes invités à développer un caractère à l'image du Christ, nous pouvons tous devenir des ouvriers avec Dieu. Que le Seigneur nous y aide. Amen.